Bienvenue sur les podcasts de Profession Banlieue, le centre de ressources de la politique de la ville de la Seine-Saint-Denis qui accompagne les professionnels et les acteurs du territoire depuis plus de 20 ans. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos actualités, agendas, publications et podcasts sur notre site internet professionbanlieue.org. Dans cet épisode, nous vous proposons l'intervention de Laurent Chambaud, directeur de l'École des hautes études en santé publique, qui est intervenu le 20 mars 2021 lors d'une matinée des élus consacrée aux politiques locales de santé, enjeux et rôle des élus.
Merci beaucoup et merci surtout de l'invitation. Alors, merci à Profession Banlieue, d'abord de l'action qu'elle fait, mais aussi d'avoir organisé ce petit temps d'échange. Alors, effectivement, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de rappeler ou de discuter ce que c'est que la santé publique, mais ce qu'on appelle les cadres du système de santé, c'est-à-dire à la fois les gens qui sont dans les équipes de direction des établissements de santé, hôpitaux, établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées au niveau public, mais aussi un certain nombre de personnels qui travaillent actuellement à titre principal dans les agences régionales de santé, mais aussi dans les préfectures sur tout ce qui tourne autour des politiques sociales et sanitaires. Par ailleurs, nous sommes aussi une université, ce qu'on appelle un grand établissement d'enseignement supérieur, et dans ce cadre-là, nous formons sur le plan académique à la santé publique et au management en santé, c'est-à-dire que nous avons des masters spécialisés, des gens qui font des doctorats sur le sujet, et nous faisons de la recherche puisque nous avons des équipes de recherche. En gros, c'est à peu près un peu plus de 90 enseignants-chercheurs qui sont dans notre école. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Maintenant, je vais directement au vif du sujet pour c'est quoi la santé publique. Alors, je voudrais juste m'accrocher à ce qui se passe depuis un an, puisque on pourrait dire qu'une école comme la nôtre, et moi en particulier, on pourrait être très, très, entre guillemets, heureux d'entendre parler de la santé publique alors qu'on en parlait relativement peu jusqu'à présent. Parce que la santé publique n'arrête pas d'être mise de l'avant depuis un an. Alors, oui, bien sûr, ça fait remonter sur l'actualité la notion de santé publique. Et ça, je pense que ça montre quand même que se préoccuper de santé publique est une chose importante pour nos sociétés. Ça, c'est le côté positif. Par contre, la crainte, en tout cas, que j'ai, c'est que finalement, les personnes ne voient de la santé publique que ce qu'on leur laisse voir, c'est-à-dire principalement de l'épidémiologie et de la modélisation. En gros, ce que vous voyez, notamment dans les médias, c'est à titre principal, soit du côté clinique des réanimateurs ou des gens en maladie infectieuse, et du côté santé publique des épidémiologistes et des modélisateurs, y compris des gens de mon école qui interviennent dans les médias. Je trouve que c'est assez réducteur et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, les deux questions qui arrivent tout le temps, c'est que va-t-il se passer ? Donc, en gros, on demande à tous ces experts de prévoir ce qui va se passer dans 8 jours, dans 15 jours, etc. Donc, est-ce que l'épidémie va durer ? Qu'est-ce qui va se passer avec le variant ? Est-ce que si pour reprendre quelque chose qui vient de l'Ouest, est-ce que le variant breton, c'est grave ou c'est pas grave, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on demande, une des deux questions. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que le gouvernement prend des bonnes mesures ? Donc on demande à des experts dans des champs très spécifiques le gouvernement a bien fait de retarder le confinement, si le gouvernement a bien fait de prendre ces mesures-là dans tel territoire, etc., etc. Alors, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, pour moi, la santé publique, ce n'est pas que ça. Et pourquoi c'est important de l'avoir d'une manière beaucoup plus générale. Alors, peut-être premier point pour essayer de tenter une définition. Déjà dire que ce que n'est pas la santé publique, c'est la clinique. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le cadre de ce qui se passe, il y a beaucoup de cliniciens qui sont aussi fortement interpellés et interrogés. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent en charge des patients. Et c'est un élément majeur, c'est-à-dire on voit bien dans ce contexte-là que la prise en charge individuelle des personnes malades est un élément majeur. Je vais y revenir. Mais il y a tout un tas de métiers autour de ce soin individuel. C'est absolument important et fondamental. Ce n'est pas ça qui fait la santé publique. La prise en charge individuelle, c'est de l'ordre de la clinique avec des gens qui vont être formés dans les facultés de médecine, en sciences infirmières, dans les écoles de services sociaux pour prendre aussi en charge le côté social. Et c'est des personnes dont l'approche est une approche individuelle, absolument fondamentale. Mais la santé publique, elle est complémentaire à ça. Et pour donner une définition très, très rapide, en gros, ce ne sont pas les efforts au niveau individuel, mais c'est tous les efforts collectifs pour permettre soit, alors si je prends le terme plus français, soit une population, quand on parle en termes anglo-saxons, on dit community, mais quand on le traduit en français, on pourra peut-être en parler en communautaire, ça prend tout de suite un relief qui est compliqué en France, mais sachez que quand on parle de santé publique dans le monde anglo-saxon, on dit « community health ». Et donc, c'est tous les efforts collectifs pour permettre à une population d'être ou de rester en santé. En gros, si vous avez cette définition-là, vous savez ce que c'est que la santé publique. C'est donc non pas, encore une fois, au niveau individuel, mais au niveau d'une population, au niveau d'une collectivité, au niveau d'une communauté, d'essayer de voir quels sont les problèmes, comment on peut les résoudre et comment on peut en faire en sorte que cette population, cette communauté reste en santé et ait la meilleure santé possible. Donc, ça fait référence, bien entendu, à la définition de l'OMS, qui est ce fameux état un peu utopique de bien-être physique, social et mental. Donc, par rapport à ça, et c'est là aussi que ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il n'y a pas une discipline de santé publique. En fait, c'est un carrefour, la santé publique. C'est d'abord un carrefour de disciplines qui viennent pour mieux comprendre les problèmes de santé et donc mieux intervenir sur les problèmes de santé. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr, il y a, et nous avons dans notre école, des gens qui font de l'épidémiologie, des gens qui font de la modélisation, mais il y a aussi tout ce qui est autour des sciences exactes, c'est-à-dire ça peut être aussi de l'économie quantitative, ça peut être de la géographie quantitative, ça peut être des sciences de l'ingénieur, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi après, mais c'est aussi les sciences humaines et sociales, la sociologie, l'anthropologie, l'économie qualitative, donc tout un tas de sciences qui sont plutôt sur les sciences qui permettent de mieux comprendre les comportements des personnes. C'est peut-être aussi la psychologie, et notamment la psychologie comportementale, etc. Et puis, ça peut être aussi des gens qui sont spécialisés en droit, des gens qui sont spécialisés en sciences de gestion, etc., etc. Donc, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que la meilleure façon de qualifier la santé publique, c'est cet endroit où des gens qui sont compétents dans des disciplines viennent apporter les connaissances dans leur discipline pour mieux comprendre des problèmes complexes que sont les problèmes de santé. Ça, juste pour vous donner un petit exemple de ça, nous avons mis en place à la demande de la ville de Rennes un comité d'appui scientifique et sanitaire en santé publique pour aider la ville de Rennes dans les décisions qu'elle peut prendre par rapport à la crise actuelle. Et dans ce petit groupe, vous avez, en gros, il y a 4 personnes. Une personne infectiologue du CHU de Rennes. La deuxième personne, c'est un épidémiologiste. La troisième personne, c'est un spécialiste en psychologie comportementale. Et la quatrième personne, c'est un microbiologiste qui est spécialisé plutôt sur les sciences de l'environnement et notamment les sciences de l'eau. Et c'est à travers ces 4 regards que nous répondons aux questions des élus de la ville de Rennes. Et pas plus tard qu'hier après-midi, il y avait, à la demande de la ville de Rennes, un temps d'échange entre ces spécialistes et l'exécutif de la cellule de gestion de crise de la ville de Rennes. Donc, c'est juste pour vous dire comment on peut arriver à mettre en scène, à développer cette interaction entre des spécialités différentes et les exécutifs d'une ville. Donc, la santé publique, c'est des disciplines, mais c'est aussi des pratiques. Et là, j'y reviendrai beaucoup dans le deuxième temps, mais ce qui fonde aussi la santé publique, c'est que ce n'est pas uniquement méthodologique. C'est comment on arrive à ce que toutes ces expertises vous permettent d'avoir les meilleures pratiques possibles pour, encore une fois, faire en sorte que les populations soient et restent en bonne santé. Donc ça, je ne vais pas y passer trop de temps là parce que ça va être un élément fort de la deuxième partie. Les domaines d'application de la santé publique, ça, je voudrais juste vous dire un petit mot là-dessus parce que ça me semble important. En gros, la santé publique, ça sert à quoi dans l'ensemble des champs que sont les vôtres? Alors, le premier champ, il est assez classique, mais je pense qu'il faudra qu'on en parle parce que c'est qu'est-ce qu'on met derrière. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la prévention et la promotion de la santé. Donc, en gros, c'est tout ce qui fait en sorte qu'avant d'être malade, on soit capable d'abord de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé possible, qu'ils restent en meilleure santé possible et que, globalement, ils aient les meilleurs comportements possibles pour pouvoir rester en santé. Donc, c'est un champ extrêmement vaste. Et c'est un champ qui, finalement, quand on parle comme ça, on ne sait pas exactement de quoi on parle. C'est quoi la promotion de la santé? Le deuxième domaine, il est assez finalement technique, mais c'est quelque chose qui, normalement, qui, je pense, peut vous parler parce que, en gros, c'est la définition et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé. En gros, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé, qui en est maître et comment on fait pour savoir si cette politique de santé est la bonne, si elle s'applique bien et si elle permet finalement l'objectif final. Alors, il existe par exemple une stratégie nationale de santé en France, dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment. Je m'en souviens très bien parce que lorsque j'étais au cabinet de Marisol Touraine, c'était un des éléments qui avait été mis en place pour mettre en place une stratégie nationale de santé pour 10 ans. Et puis, par ailleurs, ça se décline. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une politique de santé au niveau régional? Et puis, et on va y revenir probablement, est-ce qu'il y a une politique locale de santé? Et cette politique locale de santé, elle doit être élaborée, mise en place par qui? Il y a un troisième domaine qui, pour moi, est important, même si ça fait débat, y compris dans les milieux de santé publique, mais pour moi, il est absolument majeur et il fait partie de la santé publique, c'est l'organisation de notre système de santé. Notre système de santé, il est organisé d'une certaine manière, c'est différent d'un pays à l'autre, mais il y a une compétence de santé publique pour regarder cette organisation et pour savoir si cette organisation, finalement, elle s'insère bien dans cet grand objectif qui est d'améliorer et préserver la santé des populations. Et cette organisation, de la même manière, elle est nationale, elle est régionale, et c'est les agences régionales de santé qui sont en première ligne pour cette organisation régionale, mais elle est aussi locale. Et là, je pense qu'il y a aussi un sujet pour voir quel est le rôle des élus par rapport à cette organisation de la santé. Et vous le voyez bien parce qu'en ce moment, c'est un élément majeur. Où sont les tensions dans notre système de santé? Pourquoi il y a ces tensions? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces tensions particulières? Et la Seine-Saint-Denis est un exemple aussi, puisqu'on rappelle régulièrement, par exemple, que la Seine-Saint-Denis n'a pas les mêmes effectifs, le même niveau en termes de nombre de lits, en termes de nombre de personnes sur les soins ambulatoires que d'autres territoires en France, alors que les problèmes de santé sont extrêmement importants. Donc, l'organisation locale est un élément majeur. Et puis, il y a un dernier point qui est un point qui correspond à la situation actuelle, c'est que la santé publique doit aussi s'occuper de l'anticipation et de la gestion des crises sanitaires. On en a malheureusement une illustration très très forte en ce moment. Sur le premier point, bon, d'abord, je le précise, puisque je suis enregistré, je vais surtout parler en tant que Laurent Chambaud. Hein. Mais je pense que votre réaction est très, très intéressante et je vais vous dire ce que je pense. Le système hospitalier français est en crise. Il était en crise avant la crise, puisque vous vous souvenez qu'il y avait un mouvement extrêmement important de revendication. Très variable selon les endroits en France, mais qui quand même était montré qu'il y a un problème. Mon sentiment profond, c'est que, c'est illustré par le Ségur de la santé, c'est que finalement, on est en train de prendre ce problème-là par l'aspect uniquement de revalorisation salariale, voire d'effacement de dette de l'hôpital. Je trouve que c'est un rendez-vous manqué, parce qu'on a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond en termes d'évolution de notre système de soins préventifs et curatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la crise, malheureusement, à mon avis, exacerbe ça. Pourquoi? Parce que cette crise, finalement, où est-ce qu'elle se joue? À l'hôpital. Or, notre système de soins, comme beaucoup de systèmes de soins des pays industrialisés, mais peut-être un peu plus qu'ailleurs, est extrêmement hospitalo-centré et est extrêmement cloisonné. Et si on n'y prend pas garde, on va continuer à être dans cette logique-là. Donc, quand vous dites des moyens pour le système de soins, moi, je pose juste la question des moyens pour faire quoi ? C'est-à-dire, je sais qu'il y a un profond malaise et nous, je vais vous dire, on est un peu aux premières loges parce que formant les directeurs d'hôpital, qui sont quand même, il y a quand même du directeur d'hôpital bashing depuis maintenant pas mal de temps, en disant c'est des administratifs, c'est des technocrates, etc. Bon, le problème en France, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver les exécutifs pluriprofessionnels et pluridisciplinaires pour permettre d'avoir beaucoup plus de solidarité entre les différentes professions dans les hôpitaux. Mais le problème, il est aussi bien plus large que ça. C'est comment on fait en sorte que finalement, pour les personnes qui ont besoin de soins, on offre les besoins qui soient les meilleurs au meilleur niveau possible, ce que dit l'OMS depuis très très longtemps. Pour une grande partie des problèmes de santé qu'on a, c'est pas l'hôpital qui doit être en première ligne, c'est probablement le niveau ambulatoire. Or, on a des organisations qui sont extrêmement différentes entre le niveau hospitalier et le niveau ambulatoire. Le niveau hospitalier, pour l'instant, fonctionne beaucoup avec un niveau public. Mais il y a un niveau privé qui devient de plus en plus fort. Il y a une planification qui est à l'œuvre, qui est importante et qui entraîne y compris des contraintes budgétaires. Le niveau ambulatoire, par contre, jusqu'à présent, il était surtout libéral, avec les difficultés qu'on peut avoir, parce que planifier du libéral, ce n'est pas simple. Or là, on se retrouve avec une crise de vocation des jeunes qui rentrent dans la profession médicale, qui fait en sorte qu'on arrive de plus en plus à une désertification médicale, soit des zones rurales, soit des banlieues. Et donc, dans ce contexte-là, comment on fait pour avoir une réponse globale qui permette justement de faire ce que tout le monde dit et ce que tout le monde affiche en termes politiques, mais qu'on n'arrive pas à faire en pratique, c'est-à-dire, en France, on appelle ça les parcours de santé, les parcours de soins. Dans les autres pays, et à mon avis, alors c'est peut-être, ça paraît plus techno, mais je pense que c'est plus cohérent. On appelle ça la continuité des soins et des services. C'est le langage de l'OMS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les puissances publiques devraient assurer une continuité des soins et des services pour une personne, quel que soit l'endroit. Et après, les gens, ils choisissent le parcours qu'ils veulent. Mais en tout cas, qu'on soit capable d'offrir cette continuité. Pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous. Alors, ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est que finalement, cette crise, dans certains endroits, en tout cas, c'est ce que j'entends, a réussi à remettre du lien entre le niveau ambulatoire et le niveau hospitalier, mais par la mobilisation des personnes, la mobilisation des acteurs. Notre organisation n'est pas du tout dans cette optique-là et on en paye le prix assez souvent. Je passe donc à votre deuxième point sur les CPTS, les comités professionnels territoriaux de santé. Ben, pour moi, c'est l'illustration de ça. C'est-à-dire que dans les évolutions qui sont voulues depuis à peu près une dizaine d'années, on voit une approche timide vers beaucoup plus de coordination des acteurs du soin. Et les CPTS, c'est ce qui était souhaité depuis maintenant à peu près une dizaine d'années. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire les CPTS? Ça veut dire des libéraux, à titre principal, au niveau ambulatoire, qui se coordonnent entre eux pour qu'il y ait un minimum de coordination du niveau ambulatoire sur des territoires. Alors, c'est très, très variable d'un endroit à l'autre, le degré de maturité de ces comités professionnels territoriaux de santé. Je ne sais pas ce qu'il en est en Seine-Saint-Denis, mais c'est très variable d'un endroit à l'autre. Elles sont en train de se mettre en place. Moi, ce que je regrette, c'est que finalement, on n'est pas une organisation qui soit lisible sur un territoire donné. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des coordinations qui se mettent en place avec ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. D'un autre côté, vous avez des organisations qui se mettent en place avec les communautés professionnelles territoriales de santé. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le médico-social, les plateformes territoriales d'appui. Vous avez énormément de strates de coordination. Il y a les coordinations aussi que principalement les conseils départementaux essayent de mettre en place sur la prise en charge des personnes âgées. Il y a les coordinations qu'on tente de faire, Fanny Passant, on parlera peut-être de façon spécifique sur la santé mentale. Mais où est la coordination globale de ce processus? Et qui doit en être en charge? Ça, on le reverra. Moi, je suis persuadé que les collectivités locales doivent avoir un rôle majeur dans ces coordinations locales. Et ça, j'y reviendrai encore une fois dans la deuxième partie. Donc, ces communautés professionnelles territoriales de santé, bah, je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise chose parce que, encore une fois, elles permettent un peu plus de coordination entre les acteurs locaux. Mais tout l'enjeu, ça va être de faire une coordination entre ce niveau ambulatoire plutôt libéral, alors même si les centres de santé peuvent être présents, mais le niveau de ce qu'on peut essayer de faire avec les CLS, hein, l'aspect plutôt politique de santé, le niveau hospitalier avec les groupements hospitaliers de territoire, mais aussi sont laissés un peu en dehors de ces cercles de coordination tous les établissements médico-sociaux. Il y en a très peu qui sont dans les groupements hospitaliers de territoire. Et puis, vous avez aussi toute la partie de l'action sociale qui est très souvent extrêmement importante dans la prise en compte des problèmes de santé. Donc, pour moi, cette continuité des soins et des services, cet aspect de coordination, il est loin d'être abouti en France et il ne pourra se faire que par une implication forte du niveau local et des élus locaux. Alors, peut-être dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples. Et puis, les exemples ne valent que ce qu'ils valent, mais peut-être vous permettre à travers ça de voir qu'est-ce que ça veut dire faire de la santé publique. Alors, bon, je vais démarrer par la crise actuelle parce que, bon, on est tous dedans et c'est fondamental malgré tout de voir qu'est-ce que ça veut dire la santé publique dans le contexte qui est le nôtre. Alors, premier point, peut-être, je pourrais vous envoyer des schémas si vous le voulez, mais finalement, dans cette crise, on ne pense qu'à une chose, c'est le virus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on assiste à cette évolution du virus, qui est en plus une évolution très particulière par rapport aux autres virus. Et puis, on dit, on n'est pas maître. Et c'est important de voir que, en tout cas pour nous, il va falloir qu'on aille au-delà de ça, parce que d'abord, des crises, il risque d'y en avoir d'autres. Et que finalement, c'est aussi le reflet de quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire une interaction entre trois choses, d'une part, enfin entre trois choses, entre trois entités. D'un côté, il y a le virus, effectivement. Et le virus, eh ben, on voit, il évolue, il mute, il est plus ou moins agressif, etc. C'est la vie du virus, qui est l'entité microscopique. Et là, il y a les virologues pour s'occuper de ça, pour essayer de voir comment ce virus-là se comporte. Qu'est-ce qui est, pourquoi, j'ai l'exemple du virus breton où on se dit mais pourquoi on ne le retrouve pas au niveau nasopharyngé, dans les écouvillons, alors qu'il est de façon beaucoup plus importante au niveau des poumons. Donc ça, c'est un élément particulier. Après, il y a l'hôte, ce qu'on appelle l'hôte, donc pour nous, les humains. Ce que l'on voit aussi, c'est que le virus, il ne fonctionne pas de la même manière en fonction de la vulnérabilité des personnes. Alors, l'exemple le plus typique, c'est pourquoi ce virus est très agressif chez les personnes âgées, alors qu'on a eu dans le passé des épidémies de grippe qui finalement atteignaient plutôt ce qu'on a appelé la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, où c'était plutôt les jeunes qui étaient atteints et qui, avec des taux de décès importants. Mais c'est aussi, ça, vous êtes en première ligne là-dessus, on voit bien que ce virus, finalement, atteint beaucoup plus les personnes vulnérables sur le plan physique, donc les personnes qui ont déjà des maladies chroniques, notamment diabète, hypertension, etc., des personnes qui ont un surpoids ou qui sont en obésité, etc., etc. Donc, la vulnérabilité par rapport à ce virus est très variable selon les personnes et vient révéler, j'y reviendrai tout à l'heure, ces aspects d'inégalité. Puis il y a une troisième entité, un troisième cercle, un troisième domaine, qui est l'environnement. Et c'est-à-dire, on voit bien aussi que les capacités de contamination sont très liées à l'environnement. La première vague l'a montré, mais enfin, je pense que c'était, on aurait pu le présupposer, c'est que Donc, il fallait éviter les contaminations et que on a vu, il y a une étude de l'INSERM qui a été faite, qui a montré de façon très très claire que les taux de contamination étaient beaucoup plus élevés chez des personnes qui étaient dans des atmosphères suroccupées, surpeuplées. Et encore une fois là. Je pense que vous avez beaucoup d'exemples, à mon avis, très concrets là-dessus. Et ça correspond à quelque chose qui a été complètement objectivé. Donc, tout ça pour dire que même dans ce contexte-là, ce qui est important en santé publique, c'est de redonner ce modèle, c'est-à-dire de donner cette vision des choses. C'est-à-dire, c'est pas uniquement... bien sûr... un des éléments majeurs de la lutte contre ce virus va être le vaccin. Mais on aurait pu éviter un certain nombre d'éléments en termes d'inégalité et donc en termes de décès si on avait pris en compte les trois aspects, y compris de voir comment on pouvait très très vite faire en sorte que il fallait tenir compte de ces aspects de contamination interne. Et vous voyez bien d'ailleurs la différence qui a été faite entre le premier confinement et celui qui arrive là, puisque dans le premier confinement, ce qui à mon avis était une grosse erreur, en gros on demandait aux gens de se claquemurer chez eux, de rester chez eux. Rester chez soi quand il y a une personne qui est contaminée et qu'on est de nombreuses personnes dans le logement, c'est l'assurance d'avoir cette contamination. Alors que là, dans cette troisième vague, on voit bien que finalement, le message qui est derrière, c'est sortez et ne restez pas chez vous. Ce qui me paraît plus logique par rapport à ce que l'on sait du virus. Donc, vous voyez que l'environnement peut venir pour atténuer ou au contraire accentuer les effets d'une crise. Donc, je voulais juste vous donner ça en toile de fond, parce que derrière, un certain nombre de choses qui peuvent être faites sont aussi du niveau local. Alors, au niveau local dans cette crise, c'est aussi la gestion des mesures. Et vous êtes complètement là-dedans en ce moment. C'est-à-dire, toutes les mesures qui sont prises, elles sont annoncées au niveau national. Il y a un peu plus de concertation avec le niveau local qu'il n'y en avait au début. Mais c'est quand même le niveau local qui, si je peux me permettre l'expression, se coltine le travail. Donc, là-dedans, moi, il me semble que c'est absolument fondamental que vous soyez totalement intégré là-dedans. Il y a déjà eu une situation de ce type-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vois que dans les personnes qui sont là, il y a des jeunes, mais vous devez quand même probablement vous rappeler de 2003. C'était quand même il y a 17 ans, mais de la canicule. Lorsqu'il y a eu l'épisode de la canicule, alors, finalement, on a attendu que le gouvernement et que le ministère réagissent. Mais quels sont ceux qui ont été aux premières lignes? C'était les collectivités territoriales qui, d'ailleurs, ont vu assez rapidement cette conséquence de la vague de chaleur à l'époque. Donc, à mon avis, même dans des situations de crise, le niveau local est extrêmement... impacté et doit être extrêmement présent dans les réponses. L'autre point que montre cette crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le constat sur les inégalités que vous vivez de plein fouet. Alors, je veux juste mettre l'accent sur quelque chose, c'est que ce constat sur ces inégalités, il n'est pas nouveau. On le fait depuis très longtemps, mais il est révélé d'une manière extrêmement forte par la crise. D'une certaine manière, j'en serais plutôt content parce que, dans les médias, on parle des inégalités de santé, enfin, on montre ce que c'est, mais encore une fois, ça ne vient que révéler des inégalités qui étaient présentes bien avant. L'autre point sur lequel vous êtes très impacté, vous, c'est l'impact global de cette crise sur la santé, parce que ce n'est pas uniquement le virus. Là où vous êtes en première ligne aussi, Je vais le dire très vite parce qu'encore une fois, Fanny Pastor va probablement y revenir. C'est tout l'impact sur la santé mentale lié aux épisodes et d'anxiété par rapport à l'avenir et aux aspects de confinement qui ont quand même fortement fait monter cet impact de santé mentale. Ça a été objectivé par des enquêtes qui montrent qu'il y a quasiment un doublement des syndromes dépressifs, mais c'est vous qui aussi avez à gérer ça au niveau local. C'est l'impact de la santé sur les jeunes qui est un impact de santé mentale, mais qui est plus large que ça aussi. Ça, c'est aussi au niveau local que ça se fait. C'est l'impact sur les violences envers les femmes ou les violences intrafamiliales. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments qui, finalement, sont vraiment du ressort du niveau local. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est très prégnant pour vous, c'est l'impact de cette crise sur les populations vulnérables. Donc, il va falloir probablement une réflexion de profondeur sur la façon dont nous traitons les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes dans notre pays. Alors, pas uniquement, encore une fois, dans notre pays, parce que ça l'a montré aussi dans d'autres pays, mais il y a quand même quelque chose sur la capacité, finalement, d'accueillir des personnes âgées dépendantes, dans quel type de structure, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des EHPAD, puis en plus, EHPAD, c'est quand même pas un terme très joli pour accueillir des aînés qui sont dépendants et qui sont en fin de vie. Il y a aussi la situation sur les migrants. La crise de la Covid, on l'a vu aussi, et l'enquête de l'INSERM l'a bien démontré, comme c'est des personnes qui sont très souvent dans des logements suroccupés, qui sont aussi avec des détresses particulières, la crise vient aussi révéler ça. Donc, juste pour vous dire, cette crise, elle montre aussi à quel point le niveau local est absolument fondamental, mais son rôle n'est pas toujours reconnu. Enfin, je vous donne deux ou trois exemples autres, mais alors là, qui sont loin de la crise, mais qui montrent à quel point faire de la santé publique, le niveau local est absolument fondamental. Obésité et surpoids. Donc ça, c'est un enjeu. Alors là, avant, depuis de nombreuses années, l'Organisation mondiale de la santé dit que l'obésité et le surpoids, c'est une pandémie. Alors, ce n'est pas exactement le même type de pandémie, mais c'est une pandémie. La lutte contre l'obésité et le surpoids, elle passe très peu par le système de soins, sauf quand c'est à un niveau d'obésité extrêmement forte et qu'il y a besoin d'opérations chirurgicales ou autres, mais globalement, cette lutte-là, elle ne passe pas par le système de soins. Elle passe notamment par une capacité de la société à promouvoir des éléments luttant contre cette obésité et ce surpoids, ou à définir ce que c'est qu'un bon équilibre nutritionnel, pourquoi il faut faire de l'activité physique, etc. Dans cette optique-là, les structures et les personnes qui sont le plus en capacité de développer des politiques dans ce domaine-là, c'est vous, c'est le niveau local. Et alors, on l'a vu un peu à travers quelques initiatives dans le cadre du Programme national Nutrition Santé, mais je suis assez persuadé qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et faire bien mieux. Un autre exemple dont vous avez probablement entendu parler, c'est le saturnisme infantile, puisque ça a été un gros sujet en Île-de-France depuis de nombreuses années. Alors, c'est presque un cas d'école, hein, le saturnisme infantile, parce que c'est le système de soins qui absorbe, je dirais, le haut de l'iceberg, c'est-à-dire les personnes qui ont été détectées avec un taux important de plomb dans le sang, mais les éléments pour lutter contre le saturnisme infantile, ils sont complètement dans les mains des pouvoirs publics, que ce soit les pouvoirs publics de l'État ou que ce soit les collectivités territoriales, parce que c'est lutter contre l'habitat insalubre, c'est faire en sorte qu'on ait dans notre environnement très peu d'exposition au plomb. Et donc, dans ce contexte-là, on voit bien qu'un effet médical ne peut être combattu que par une politique, et une politique d'urbanisme, une politique sociale, etc. Donc là, on a vraiment, encore une fois, un élément qui montre que problème de santé trouve ses solutions dans les politiques que vous mettez en place. Bon, je pourrais multiplier les exemples, hein, mais il y en a énormément de ce type-là qui montrent que finalement, le niveau local est extrêmement important. On parle de plus en plus des problématiques d'environnement et santé. Qui est en mesure de cartographier les risques? Bien sûr, il y a des services de l'État qui peuvent le faire, mais de cartographier les risques et de voir comment on peut mettre en place une dynamique entre les élus d'un côté et la population de l'autre pour permettre de prendre conscience de ces problématiques d'environnement et de lutter collectivement contre ces problématiques d'environnement, c'est vous. Donc, juste pour terminer, vous dire que moi, je suis vraiment persuadé que le niveau local est un niveau majeur, parce que le niveau local, c'est le niveau où on peut assembler les politiques. Et la politique de santé, elle ne peut pas être déliée des autres, parce qu'elle est très interreliée. Les politiques d'urbanisme peuvent être favorables ou défavorables à la santé. Les politiques de transport peuvent être favorables ou défavorables à la santé. Les politiques de nutrition, comme je vous l'ai dit, peuvent être favorables ou défavorables à la santé. Donc, tous ces éléments-là, ils sont entre vos mains. Alors, je sais bien, et ça a été rappelé au départ, que la compétence n'est pas spécifiée. Moi, je trouve qu'elle serait importante à donner, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire que vous ayez une compétence là-dessus. Mais je pense que vous, en tant que justement assembleur, et vous savez, vous avez les outils et vous avez les compétences pour, je pense que c'est absolument important que vous soyez reconnu là-dedans, en tant qu'assembleur des politiques favorables à la santé. Avec quand même deux, pour moi, non pas des alertes, mais des éléments dont il faut tenir compte. Le premier, c'est que nous souffrons cruellement, et je vous remercie d'avoir participé à ce temps-là, parce que je suis vraiment persuadé qu'il y a un très fort manque de culture de santé publique dans notre pays. On n'en entend pas parler, on n'en entend jamais parler à l'école. Alors là, on entend parler pendant la crise, mais à mon avis, ce n'est pas en termes de culture de santé publique. C'est très peu présent. Ça devrait être présent dès l'école, cette culture de santé publique. Ça devrait faire partie aussi d'une sorte de culture pour les personnes qui sont nouvellement élues. Alors, encore une fois, merci à Profession Banlieue de le faire et merci d'y assister. Mais je pense que ce contact avec ces problématiques, finalement, il est très peu présent. Pardon, il est très peu présent et il faudrait qu'il le soit beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, comment on peut participer à ça? Et moi, j'aimerais bien votre retour parce que, par exemple, pourquoi... alors, je suis encore une fois très heureux que vous soyez là, mais pourquoi il n'y a pas plus de monde? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à sensibiliser suffisamment les élus à ces aspects, ces problématiques de santé publique? Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut aussi renforcer en compétence les acteurs dans le domaine de la santé publique. Il faut que vous soyez capable, vous, de visualiser ce que c'est qu'une politique de santé publique, de visualiser pourquoi c'est important et de visualiser quels sont les résultats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on arrive à faire, comment on est capable de l'objectiver et comment vous êtes capable, finalement, pour vous, parce que vous êtes des élus, de le mettre dans votre bilan, c'est-à-dire voilà ce qu'on a réalisé, voilà ce que ça a donné. Et là-dessus, là, je bats ma coule parce que je pense qu'en santé publique, on ne sait pas suffisamment vous aider là-dedans. Sur la notion de compétence du niveau local, alors moi, enfin, pour moi c'est très clair, hein, c'est-à-dire il faut effectivement absolument que ce soit enchâssé quelque part cette compétence, parce que de plus en plus de collectivités ont soit l'envie, soit la quasi-obligation d'être dans ce champ-là. Parce que c'est un élément majeur de la vie des personnes sur le plan local, et que quand on est, je suppose, enfin je parle sous votre contrôle à vous toutes et à vous tous, mais quand on est un élu local, eh bien, on ne peut pas se désintéresser de la santé des personnes parce qu'elle est là, et que les premières personnes que l'on interpelle quand il y a un problème, eh bien, c'est l'élu ou l'exécutif local. Donc ça me semble être absolument incontournable. Et je trouve que ça serait vraiment intéressant que ce soit marqué. Le problème, je pense, c'est surtout un problème de délégation de compétences et derrière de financement, derrière cette délégation de compétences. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en avoir peur parce que il n'y aura pas de transfert financier sur le soin, puisque de toute façon le soin c'est l'assurance maladie et c'est dans un contexte qui est très fortement posé. Le problème c'est la santé, donc en termes vraiment prévention, promotion de la santé, capacité de mettre en place des politiques, lien entre les différentes politiques, et ça de toute façon vous le faites. Donc après, il y aura bien entendu probablement des discussions sur l'enveloppe de ces compétences, mais quand vous faites une politique d'urbanisme, vous faites de la santé publique et vous n'avez pas eu de transfert financier pour le faire et vous le faites de toute manière. Donc je pense que ça serait dommage que cette nécessaire reconnaissance et valorisation du travail des collectivités autour de la santé soit piégée par ce que l'on a vu dans les exercices de décentralisation précédents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transfère comme financement sur ce sujet-là. Bon, ça va être un sujet notamment au niveau national avec nos élus parlementaires. Mais en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que c'est fortement dommage que vous ne puissiez pas vous appuyer sur une compétence marquée quelque part dans la loi. Même si elle est, quand on lit en filigrane un certain nombre d'éléments, encore une fois, des aspects sur l'ensemble des politiques. Sur ce que vous avez dit sur le même Ponzio sur le temps, je comprends tout à fait, hein, et c'est vrai que c'est un élément compliqué, mais là encore une fois c'est moins vous que j'interroge ou moins profession banlieue que nous collectivement, c'est-à-dire je suis pas sûr que nous soyons en mesure y compris de susciter l'envie. On ne sait peut-être pas bien le faire. On en a parlé un petit peu avec Profession Banlieue, parce que moi, je leur disais, ben, peut-être qu'un des moyens d'attirer, c'est de parler de la crise, parce que vous vivez tous la crise. Et effectivement, c'est une très belle illustration. Mais on ne sait pas très bien le faire, on n'est pas très bon en communication, et ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait qu'on développe, communication et santé publique. Ça, en tout cas, j'en suis persuadé, mais on ne sait pas bien faire. Mais peut-être une suggestion que je pourrais faire, c'est qu'on raisonne plus par cas pratique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une sorte d'étude de cas très courte, qu'on vous propose, et que dans cette étude de cas très courte, vous puissiez réagir et que ça permette justement de susciter non pas enfin, un programme de formation très, très fort, mais une sensibilisation à ce que peut être la santé publique. Qu'on soit capable de trouver les moyens pour le faire dans ce contexte-là. Mais je suis totalement d'accord avec vous. On est tous un peu pris par ce cercle vicieux, c'est-à-dire on a de moins en moins de temps, mais vous et nous, ou alors on va le chercher là où normalement c'est plutôt des temps personnels, et puis on est submergé d'informations, et on ne sait pas dans ce contexte-là comment aller chercher l'information qui peut vraiment être intéressante et utile pour nous. Donc, je partage votre constat, mais je ne sais pas comment on peut faire pour avancer. C'est un sujet majeur pour nous parce que, ben, j'ai essayé de le démontrer un peu à travers quelques exemples, mais ça se dit dans le langage techno-OMS, hein, la santé doit être dans toutes les politiques. Ceci dit, entre le dire et le faire et l'illustrer, il y a un pas. Et c'est ça probablement aussi qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est-à-dire comment on est capable de montrer concrètement ça veut dire quoi la santé dans toutes les politiques. Et là, pour ça, on a vraiment besoin que ce ne soit pas uniquement une sensibilisation de l'élu délégué à la santé, mais que ce soit une mobilisation de l'ensemble des exécutifs. Pour que chacun ait cette petite lumière, c'est-à-dire si je travaille sur l'urbanisme, si je travaille sur les aspects liés aux pistes cyclables, si je travaille sur la place des jeunes dans la commune, etc., etc. Finalement, je peux travailler pour la santé publique au sens où j'ai essayé de le montrer. Donc, oui, il faut le faire comme ça, mais après, je pense que vous êtes aussi tous rattrapés par quelle est ma délégation, comment je peux faire pour travailler avec ma délégation, etc. Donc, c'est vraiment un sujet important. Sur les moyens, c'est un gros sujet, je comprends bien. Je suis persuadé que la France ne met pas assez de moyens dans la prévention. Mais là où vous voyez qu'il commence à y avoir une difficulté, c'est que quand on regarde l'enveloppe qui est donnée pour le système de santé, d'abord la France est un des pays au monde qui donne le plus en pourcentage de son PNB pour la santé. Donc, est-ce qu'on va continuer à aller plus loin? Comment? On est à peu près 11% de notre produit national brut pour la santé. Quand je dis pour la santé, c'est essentiellement pour les soins. Et vous voyez que même avec ça, il y a une crise à l'hôpital, avec des gens qui disent que l'hôpital n'est pas assez financé. Il y a une crise dans l'ambulatoire. Il y a une crise dans le médico-social. Donc, on fait comment? Et dans ce cadre-là, moi, ce que je voudrais surtout pas, c'est que toutes ces actions de prévention, de promotion de la santé se retrouvent en concurrence avec ce qu'on doit donner pour le système de soins, parce que sinon, on met finalement des gens en compétition de manière, à mon avis, extrêmement délétère. Par contre, ce qu'on ne sait pas assez bien faire, et c'est peut-être un peu l'option qu'on pourrait trouver par rapport à la question que vous avez, c'est comment on peut dégager du financement en dehors de l'enveloppe santé pour travailler des sujets en amont. Je prends l'exemple que je viens de donner sur les pistes cyclables. On ne va pas aller demander de l'argent pour créer des pistes cyclables au système de soins. Par contre, si on met en place une véritable politique sur les pistes cyclables, bon, ça peut être sur d'autres choses, mais en gros sur la mobilité et l'activité physique. On travaille pour la santé, c'est très clair. Les études sont nombreuses, convergentes, il n'y a même pas de questions à se poser. On travaille pour la santé Et on pourrait, dans le cadre d'un programme, y compris objectiver les effets sur la santé, sur la population. Et c'est ça qu'on ne fait pas, qu'on fait très peu. Et dans ce contexte-là, là, je pense qu'il pourrait effectivement y avoir des programmes qui sont assortis d'un élément santé dans lequel on regarde les effets sur la santé de politique globale. Et ça, je pense que c'est jouable. Et ce que ça demande, c'est de le poser de cette manière-là, de travailler avec des organismes qui ont les compétences pour faire l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de telles actions. Et ça donnerait des exemples qui vous serviraient, y compris pour après aller chercher de l'argent. Mais je ne pense pas que cet argent sur des politiques de ce type-là, il faille aller le chercher dans le système de soins. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, c'est probablement un élément, à mon avis, une piste en tout cas qu'il faudrait essayer. Après, dans le système de soins, il faudrait aussi être capable de réorganiser ce que j'ai dit avec cette approche globale pour qu'il y ait plus de prévention, mais faite par les acteurs du soin, par exemple, de la prévention sur les dépistages, sur les bilans systématiques, sur l'éducation thérapeutique. Ça, c'est dans le système de soins. Mais les éléments très en amont, là, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour le financer. Mais plus on objectivera des résultats, plus on sera en lien avec les connaissances sur le sujet, plus vous serez outillés, y compris pour montrer l'intérêt du sujet et pour aller chercher des financements. Alors, moi, je regrette qu'il n'y ait pas assez au niveau académique de formation de type licence, de type master sur les aspects de prévention et promotion de la santé. Il devrait aussi y avoir des formations professionnalisantes dans ce contexte-là. Alors, on a un très gros effort à faire en termes de formation, mais il y a quand même des compétences qui existent sur le terrain et vous en avez en Seine-Saint-Denis. Alors, encore une fois, pas assez, mais il y en a. Et plus vous allez faire en sorte que ces compétences-là soient utilisées, mais sur des projets concrets dans lesquels vous êtes capable de montrer un certain nombre de choses. Et c'est probablement ça qu'on ne fait pas assez. Mais dans ce contexte-là, oui, je pense que c'est possible à faire. Il faudrait qu'on ait un programme ambitieux en France de développement des compétences dans ces domaines-là, ce que l'on n'a pas. Alors à l'EHESP, on a des masters et on a des gens qui sortent de ces masters-là avec des compétences. Par exemple, on a dans notre master de santé publique une option de master 2 qui s'appelle pilotage des politiques et des actions en santé publique. Les gens qui sortent de ce master-là, c'est exactement ça qu'ils devraient faire. Alors, peut-être aussi que ça peut être une possibilité pour les élus, pour les exécutifs locaux. Vous avez en général des coordinateurs de contrats locaux de santé ou des choses comme ça, de renforcer cet aspect-là. Et souvent, les coordonnateurs de contrats locaux de santé, c'est des gens qui ont eu un peu ce type de parcours universitaire et de compétences.
Je disais, on a aussi pas mal d'ateliers santé-ville en Seine-Saint-Denis.
Tout à fait. Les ateliers santé-ville, c'est exactement la même chose et c'est les mêmes profils que l'on retrouve. Mais souvent, ces personnes-là, finalement, sont absorbées par le côté coordination. Et donc, avec une bonne partie de travail, ce que je trouve un peu dommage parce que souvent leurs compétences pourraient leur permettre d'aller plus loin. Et puis au niveau des agences régionales de santé, pour terminer sur la dernière question, j'ai été au démarrage de l'ARS Île-de-France et y compris sur le démarrage des contrats locaux de santé en Île-de-France. Moi, je suis persuadé que c'est le rôle des ARS. Après, il faut qu'elle soit capable de le faire. Donc, pour être capable de le faire, ça veut dire être dans une dimension d'animation politique et plus que de régulation. Donc, c'est des changements de métier hein, pour les gens qui étaient avant dans des structures où on leur demandait surtout de faire respecter des normes, d'être dans une position plus de régulateur. Et puis, c'est vrai aussi que, encore une fois, la prévention et la promotion de la santé, même si les ARS l'ont dans leur mission, ce n'est pas souvent ce qui est mis de l'avant. Mais je pense que c'est un élément majeur de ce que devraient faire les agences régionales de santé pour assurer cette impulsion au niveau régional et faire en sorte qu'on puisse, dans ce cadre-là, appuyer les initiatives locales. Les discuter, parce que je pense que parfois, et quand vous dites quelle priorité on doit donner, oui, de toute façon, il y a un exercice de priorité que vous faites, y compris dans vos exercices quotidiens, mais que l'ARS puisse aider à faire ces priorités-là, et après puisse soutenir la mise en œuvre et l'évaluation de ces actions-là, moi, je pense que c'est vraiment son rôle. Oui, juste peut-être un petit mot, pas conclusif, hein, mais c'est important en tout cas d'avoir ces temps de contact. Moi, je suis très heureux, y compris de partager avec des élus locaux, parce que vous l'avez bien compris, je pense que c'est vraiment important dans la dynamique de santé publique de faire en sorte que les élus locaux se sentent investis d'une capacité à promouvoir cette santé publique. Je voulais vous dire que on ne sait pas ce que va engendrer cette crise en termes de difficultés et d'opportunités, mais si vous pouvez le saisir comme une opportunité pour permettre de travailler la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens, ben c'est important. Et donc, dans ce contexte-là, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous aura convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire, y compris des choses très concrètes. Peut-être un point juste par rapport à ce que Fanny Pastin a dit, et qui est pour moi un enjeu aussi important, c'est que je suis très heureux qu'il y ait une dynamique qui se développe sur l'aspect de santé mentale. C'est un sujet majeur en santé publique, mais il ne faut pas oublier de faire le lien entre santé publique et santé mentale. C'est toujours aussi très, très compliqué parce que il ne faut pas qu'on ait non plus trop de dispositifs éclatés parce que les gens ne comprennent plus très bien. Alors, je sais que c'est un enjeu que vous avez, mais ça sera à vous de le faire vivre au niveau local. Autre point, puisqu'on a reparlé un peu argent, il faut démarrer avec un certain nombre d'actions. Ça ne demande pas tout le temps énormément d'argent, ça en demande un peu, mais vous voyez bien et ça a été montré dans les CLSM, mais de manière globale, il y a des moyens de construire des choses d'une ambition raisonnable et qui permettent de faire avancer aussi à la fois l'expertise et finalement de montrer que ça entraîne des résultats.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter notre site professionbanlieue.org pour toute information sur l'ensemble de nos actions. Nous vous invitons également à adhérer pour soutenir notre association. À bientôt pour les podcasts de Profession Banlieue.